Worden doch ein Kuss gegeben, schäm ich sie verleid. Nicht das sei verleid, wie war Gott allein. Wollt mit ihm verbracht die Zeit, das keiner soll nicht sein.
L'Odyssée d'un voleur de pommes de Moïse Rosenbaumas, autobiographie d'un juif lituanien né en 1922, traduite du yiddish par la fille de l'auteur, est un témoignage sur la réalité foisonnante du monde juif d'Europe de l'Est avant 1945. C'est aussi un document sur l'armée rouge et le système stalinien vécu de l'intérieur. Le texte, écrit en yiddish, a d'abord été traduit par Moïse Rosenbaumas lui-même, puis a été repris par sa fille Isabelle au fil d'un dialogue qui a parfois étoffé le récit initial. Né en 1922 dans une bourgade de Lituanie, Moïse Rosenbaumas raconte la vie de cette société pauvre et laborieuse à la veille de sa destruction. L'auteur évoque les métiers qui avaient à leur cours, les plats de misère et les jours de fête, le climat rude et les jeux d'enfants. Glisser sur le lac glacé avec un seul patin, et voler des pommes dans les vergers les plus difficiles d'accès. Tandis que le père de Moïse abandonne sa famille après une faillite causée par la crise mondiale, le petit garçon commence à travailler à l'âge de 10 ans, puis devient tailleur. La guerre éclate, et l'adolescent s'enfuit après avoir tenté de convaincre sa mère et ses frères de le suivre. Ils seront tous assassinés avec les autres juifs lituaniens entre juillet et décembre 1941. Au cours de son périple, Moïse est interné avec d'autres Russes dans un kolkhoz d'Ouzbékistan où il subit le travail forcé et la faim. Il parvient à s'extraire de cet enfer et s'engage dans l'armée rouge où il sera éclaireur. Décoré comme soldat, il devient cadre du régime soviétique jusqu'à ce que sa conscience et surtout sa femme l'incitent à sortir de cet enlisement dans le système. En 1957, il rejoint ainsi son père en France qu'il n'avait pas vu depuis près de 30 ans. Moïse s'est éteint le 1er novembre dernier.
La majorité de la population juive de Telse vivait dans la pauvreté et tirait le diable par la queue. Certains parvenaient péniblement à joindre les deux bouts en faisant des petits métiers et s'échinaient à gagner leur pain quotidien. Beaucoup de petits artisans pratiquaient le troc parce qu'ils n'arrivaient pas à vendre leurs marchandises. À côté de quelques rares familles aisées, on trouvait une toute petite classe moyenne. Pourtant, lorsque le Shabbat approchait, la ville entrait en effervescence, tandis que tout le monde se mettait à préparer la fête, le pauvre aussi bien que le riche. Ceux qui n'avaient pas de quoi payer achetaient à crédit, habitude très enracinée dans cette économie de survie. C'était un crédit sans traite, sur parole et gratuit. Consenti sur la présentation d'un carnet ou d'une simple feuille de papier, sur laquelle le commerçant inscrivait l'article et son prix, sans fixer la date d'échéance du paiement. Une fois l'article réglé, le commerçant rayait simplement la dette. Ce système perdura sans changement pendant longtemps. Il avait encore cours dans l'immédiate avant-guerre. Cela va sans dire, le Shabbat des riches n'était pas semblable au Shabbat des pauvres, mais ainsi qu'on le disait chez nous, le ventre n'a pas de fenêtre. Personne n'est censé savoir ce que les uns ou les autres ont ingéré. Une chose expliquant peut-être l'autre, il existait à Tels, comme dans tout le monde juif ashkénaze à cette époque, de nombreux partis politiques représentés par des groupes organisés ou seulement par deux ou trois individus. Je ne vais pas en dresser la liste ici, mais ils se répartissaient entre l'ensemble des tendances politiques de l'extrême gauche à l'extrême droite. Comme toutes les villes et bourgades du monde, Tels abritait aussi son lot de fous et de malades mentaux, ou de gens simplement un peu dérangés qui ne trouvaient pas leur place dans la société. Chacun d'entre eux était affublé d'une étiquette, d'un surnom qui le caractérisait. Ceux à qui la vie avait légué quelques petits défauts étaient de la même manière gratifiés d'un sobriquet, pas toujours très charitable. La majeure partie de ces gens a sûrement péri, exterminés par les Allemands ou leurs collaborateurs lituaniens. Si par le plus grand des hasards il subsistait parmi eux ou dans leur famille ne serait-ce qu'un seul survivant, je ne prendrais pas le risque de blesser qui que ce soit en nommant tel ou tel. Ainsi que je l'ai déjà précisé, le centre de la ville était habité par les Juifs. Quand arrivait le vendredi après-midi, quelques heures avant l'entrée du Shabbat et l'allumage des bougies, tous les magasins fermaient les uns après les autres. Pas un seul ne restait ouvert. Le centre se vidait alors complètement. Une heure plus tard, tout le monde se rendait à la synagogue. Une fois la prière terminée, tout le monde rentrait chez soi pour le repas du vendredi soir. En raison du climat hivernal très rude, le gras, qui assure une protection contre le froid, occupait une place honorable dans l'alimentation. Dans les familles où il y avait suffisamment d'argent pour préparer un Shabbat conséquent, le repas du vendredi soir était copieux, mais moins lourd cependant que celui du samedi midi qui suivait l'office à la synagogue. Voici comment on célébrait l'entrée du Shabbat chez nous. Ashkenazim de Lituanie, dans une famille traditionnelle. Dès le vendredi matin, le pain et le challé, pain brioché et natté réservé au Shabbat, cuit dans le four de la maison, exhalaient leur arôme. D'ailleurs, tout était fait maison, préparé avec soin et avec la saveur des cuisines longuement mijotées. Le repas s'ouvrait toujours par le kiddush, la bénédiction sur le vin récitée la veille du Shabbat et des principales fêtes, ainsi que les jours même de cette fête. Pour nous ouvrir l'appétit, nous avions coutume de commencer par du hareng, le herring, entier ou haché. Il ne faut pas oublier que Tels n'est qu'à 60 km de la mer Baltique où le hareng est roi. Ce n'était pas alors un article de luxe en Lituanie où il était vendu au marché à raison de 13 à la douzaine. À défaut de pouvoir s'offrir des produits plus raffinés, les pauvres profitaient de son prix modique pour remplir leur estomac à moitié vide de hareng et de pain noir. Mais revenons à la table familiale. Un soir de Shabbat généreux en période faste, où cette modeste entrée précède à une portion des gefilte fish. La réputation de sommet devrait en principe m'épargner de préciser que le poisson en question était une carpe, mais qui sait de quoi sera fait le poisson farci de demain. Il est aujourd'hui quasiment impossible de savoir ce que l'on vous sert en guise de gefilte fish. La farce, en ce temps-là, était le plus souvent mélangé avec de la chair de brochet. Encore une fois, la denrée n'était pas rare, puisque notre ville de Tels était quasiment entourée par les eaux d'un lac où les carpes et les brochets abondaient. Quand nous avions réglé leur sort au hareng et à la carpe, le Geachteleber, foie haché, faisait son apparition sur la table, et pour couronner cette partie du repas, nous avions encore droit à une réconfortante assiette de bouillon doré avec des pâtes confectionnées à la maison. C'est seulement après ces préliminaires que l'on s'attaquait au mets principal, le Tcholtmunt, plat spécifique du Shabbat préparé la veille, dont la cuisson très particulière en raison de l'interdiction d'allumer du feu, s'effectuait dans le four éteint mais encore chaud du boulanger, du vendredi soir jusqu'après l'office du samedi matin. Dans la ville, malgré les interdictions imposées par le Shabbat, il était autorisé de porter, car il y avait un EIREF, limite à l'intérieur de laquelle on peut transporter des objets pendant la durée du Shabbat sans transgresser la loi, comme cela existe aujourd'hui encore en Israël. Le boulanger étant plus zélé à l'étude de la Torah qu'au travail à son fournil, nous avions surtout affaire à sa femme. Nous allions chercher la précieuse préparation chez la boulangère, ou bien elle la déposait chez nous le samedi à midi. Tous ces mets avaient un goût que je ne peux décrire. Le kishke, le kufarsi et les knaidler, les boulettes de ce tcholtnut, avait une saveur inimitable, car le mélange avait mijoté à petit feu dans le four à bois, à basse température et pendant plus de 12 heures, et nageait, on ose à peine l'écrire aujourd'hui, dans la graisse. Personne n'avait vraiment peur de grossir. Qui pensait à surveiller sa ligne par un froid pareil? Après le Choltnt, la compote de fruits secs composait le dessert traditionnel de ce festin, arrosé d'eau fraîche tirée au puits. Et le repas s'achevait, mais nous ne quittions pas la table avant de prononcer la bénédiction. Les plus vieux se couchaient alors le temps d'une petite sieste, tandis que les jeunes allaient se promener pour faciliter la digestion. Quelques heures avant Minra, la prière de l'après-midi, la rue principale devenait noire de monde, même en hiver, quand la température s'abaissait jusqu'à moins 25 Celsius. Les gens avaient l'habitude du froid, et jusqu'à moins 30 degrés, les enfants se rendaient à l'école. Cela n'était pas considéré comme dangereux. Tous les magasins juifs restaient fermés le Shabbat, mais aussi le dimanche, qui était le jour de fermeture des Lituaniens. Au moment où notre famille s'était transportée à Telz, nous étions d'abord installés dans un appartement modeste proche du centre, mais en retrait de la rue principale. Rien n'était vraiment éloigné, cependant, dans cette bourgade où quelques minutes de marche permettaient de franchir la distance qui séparait le centre de la campagne. L'appartement était très simple, mais tout à fait décent. Il y avait pire dans la ville, bien pire. Mon père ouvrit à Telz un magasin de tissus en détail. Le magasin était assez grand et très haut de plafond, et il fallait se servir d'une échelle pour atteindre les dernières étagères. Mon père, ma mère et deux vendeurs s'occupaient des clients. Le magasin était bien situé du côté où la place du marché se rétrécissait. Les jours de marché, les paysans et leurs familles affluaient en masse pour faire leurs achats à la recherche d'étoffes pour confectionner les draps et les couvertures des literies, les costumes ou les manteaux, ou des tissus légers pour les robes et les tabliers. Nombreux étaient ceux qui se fournissaient dans notre boutique. Il faut souligner qu'à cette époque, on ne trouvait pas de vêtements manufacturés. Les gens, aisés, les donnaient parfois à faire à façon chez un tailleur ou un couturier. Mais souvent, les femmes étaient capables de se coudre elles-mêmes leurs tenues. La maison fournissait aussi aux jeunes fiancés et à leurs familles le nécessaire pour former leur trousseau. Le magasin marchait très correctement, si bien que mon père en ouvrit un deuxième, à 15 km de Telz, dans une bourgade qui s'appelait Naveran. Si la distance n'était pas énorme, la route était mauvaise, surtout au printemps et en automne, où l'on pouvait à peine faire le voyage en charrette. En effet, il fallait quasiment 3 heures pour aller de Telz à Narevan, aux saisons où les chaussures et les roues s'enfonçaient dans la boue. En été et en hiver, il n'y avait pas de problème. Mon père, voyant qu'il perdait beaucoup de temps, décida d'acquérir un cheval. Ce moyen de locomotion rapide lui permettait de surveiller plus facilement les deux magasins. Les affaires tournaient donc très bien, et notre train de vie changea peu à peu. Nous avons commencé par louer une maison plus spacieuse, dotée du confort de l'époque, dont la cour était aussi un vaste terrain de football, et l'étable assez grande pour accueillir un cheval et une vache. Et c'est dans cette cour que j'appris à monter à cheval à l'âge de 7 ans. À l'échelle de Telz, c'était une habitation qui pouvait passer pour une demeure bourgeoise. L'appartement comptait 5 pièces et une cuisine, un salon qui servait aussi de salle à manger, 4 chambres à coucher. Il y avait également dans la cour une maisonnette où vivait une famille lituanienne. Le mari et la femme travaillaient pour le propriétaire qui occupait l'autre partie de la maison. L'étable qui abritait notre cheval devait bientôt recevoir une nouvelle pensionnaire car ma mère décida en effet d'acheter une vache. Nous aurions désormais du lait frais à volonté, chaud et mousseux, dont je rêve parfois encore aujourd'hui. Ma mère engagea pour l'aider une servante, Anna, qui fut nourrie et logée chez nous. C'était une demoiselle d'une 50aine d'années d'origine russe, mais née en Lituanie. Puis ma mère loua une chambre à 4 yeshivé borerim, des étudiants de la yeshiva, l'école supérieure talmudique. Celle de Telz, dont la renommée dépassait largement les frontières de la Lituanie, comptait alors 400 élèves. Pour s'acquitter du loyer, il nous enseignait à mon père aîné et à moi le Talmud. Ma mère leur offrait aussi le repas du Shabbat et un repas dans la semaine de temps en temps. C'était une coutume et une mitzvah. Ma mère était une femme calme, qui n'élevait jamais la voix. Elle était très pieuse et observait strictement les commandements. Mon père n'était en revanche pas observant du tout. Mais je me souviens tout de même de lui les soirs de Shabbat, chantant le kiddush, la bénédiction sur le vin, sans utiliser le livre de prière. Il avait une très belle voix. Cependant, il se reconnaissait davantage en sionisme, tout comme la plupart de ses amis. C'étaient des sionistes laïcs, issus de la classe moyenne et parfois aisés. Il y avait aussi parmi eux un homme qui est resté plus tard l'ami de mon père, l'écrivain Yankel Rabinovitch, qui émigra au Canada. Du point de vue politique, il était le fer de lance de ce petit groupe. Après la guerre, il rendit plusieurs fois visite à mon père à Paris. Mon père possédait, quand je l'ai retrouvé, une importante bibliothèque yiddish d'environ 500 livres. Il ne lisait qu'en yiddish. Et du reste, en Lituanie, les sionistes faisaient leur propagande en yiddish. Quand Jabotinsky vint à Telse pour donner une conférence, c'est dans cette langue qu'il s'exprima, comme il le fit toujours lors de ses déplacements en Lituanie. Une fois par semaine, cette compagnie se retrouvait dans une des familles pour jouer aux cartes jusqu'au petit matin. Leurs deux jeux favoris étaient le poker et le 66, un jeu qui se pratiquait à l'époque. L'argent n'était évidemment pas la motivation principale des joueurs, mais servait à rendre les parties plus excitantes. Les femmes n'étaient pas présentes lors de ces soirées, à l'exception de la maîtresse de maison qui recevait. Celle-ci assurait les préparatifs et servait à boire et à manger toute la nuit. Est-il nécessaire d'ajouter que les femmes n'appréciaient pas toujours l'absence de leur mari et qu'il arrivait à l'une ou l'autre de manifester son mécontentement avec éclat, brisant ici un carreau de fenêtre, provoquant là une esclandre pour exprimer sa jalousie. Indéniablement, elles avaient parfois des raisons de se révolter, car parmi les hommes, certains ne se contentaient pas de jouer aux cartes. Jusqu'où cela allait-il ? Je ne saurais le dire avec certitude, mais des rumeurs circulaient. Il n'était donc pas rare qu'une des épouses vienne chercher son mari et que la victime soit alors contrainte de quitter la partie sous les invectives de sa moitié. Mais ces scandales ne changeaient finalement pas grand-chose car la vie continuait ensuite comme si de rien n'était. Je voudrais m'interrompre ici pour glisser un épisode que je n'avais pas évoqué dans la version yiddish de ce texte. Par pudeur, en pensant à mes enfants et à mes petits-enfants, mais davantage encore parce que je craignais de faire de la peine à ma petite sœur. Réflexion faite. Il est important de l'aborder car, même s'il est douloureux, il rend compte de la réalité et de notre situation en tant que famille. Quand les affaires de mon père marchaient encore assez bien, il avait trouvé une petite amie. C'était une belle fille, la fille d'une cousine de ma mère. Au début, il sortait avec elle en cachette, mais progressivement, les gens commencèrent à voir et à parler, et l'affaire assez bruitée. Moi, je n'étais qu'un gamin de 7 ans et des poussières, et ma première idée avait été de sauvegarder la réputation et l'honneur paternel. Mais tout le monde finit par être au courant, et les langues se délièrent. Les secrets ne résistaient pas longtemps dans notre ville, et l'histoire prit dès lors, pour moi, une autre tournure. Un soir, j'étais au rendez-vous. Je les guettais à la sortie du cinéma. Je ne les ai accueillis ni avec par des accolades, ni avec des fleurs, mais avec du crottin de cheval bien frais que je leur lançais en plein visage. L'incident était clos. Si j'avais été plus grand, j'aurais peut-être établi un plan de marche, une stratégie, une action, une tactique, pour parler en termes militaires ou politiques. Mais je n'étais qu'un gosse, et rien de ce que je fis alors n'avait été prémédité. Je n'avais préparé qu'une chose, l'attente. Le reste était venu avec l'instinct d'un gamin de 7 ans, sans que je réfléchisse. Mon père ne fit évidemment pas la moindre allusion à ce malheureux épisode, ni à ce moment-là, ni plus tard. Je ne dis rien à ma mère, et si jamais elle en sut quelque chose, ce ne fut pas de ma bouche qu'elle l'apprit. Elle a cependant très probablement été au courant, car encore une fois, tout se savait. Personne n'a jamais abordé le sujet à la maison. Quels moyens avais-je à ma disposition pour protester ou exprimer mes sentiments ? Bien sûr, aujourd'hui, je vois les choses de façon différente, mais lorsqu'on est un enfant, les gestes viennent tout seuls. Et j'étais révolté.
Dort wo großen Sehnen nasser steht der Grenze vertracht Geyen meid lertzien vaser, midi emmer ale nacht. Geyen meid lertzien vaser, midi emmer ale nacht.